grâce à Internet, la radio d'aujourd'hui s'écoute aussi quand vous êtes disponible et pas seulement en direct. Radio-Okapi.net, téléchargez et conservez vos émissions préférées. Dialogue entre Congolais, parole aux auditeurs et Okapi Service. Téléchargez l'émission de votre choix, vous l'écoutez quand vous le souhaitez. Radio-Okapi.net, la radio en différé à votre service.
La région de Beni au Nord Kivu est le théâtre d'attaques d'une rare violence. Des assaillants surgissent dans les villages et tuent les habitants à la machette. Enfants, femmes enceintes, vieillards, personne n'est épargné. Les corps sont démantelés comme des pièces de boucher. Les images qui en témoignent sont épouvantables. Alors que dit la loi congolaise à propos de ce genre de situations, à propos des massacres collectifs, de ce genre? Maître Rufin Louko, vous êtes juriste, chercheur, écrivain en droit. Vous intervenez depuis le studio des radios Okapi à Goma, bonjour.
Bonjour, aujourd'hui, bonjour à tous.
Alors, nous parlons aujourd'hui des massacres collectifs. Comment la, qu'est dit la loi congolaise à ce sujet?
Voilà, merci beaucoup. Évidemment, donc, c'est un terme qui est devenu récurrent actuellement, que tous les médias utilisent. Alors, nous, notre devoir, c'est revenir à ce qui est principal. Qu'est dit la loi? Alors, au Congo, qu'est dit la loi lorsqu'il arrive des événements comme ça? Ça veut dire l'élimination de plusieurs personnes à la fois, d'une manière systématique. Alors, ce qu'il a prévu d'une manière particulière, c'est principalement le code pénal militaire congolais. N'est-ce pas? Alors, ces articles, à partir de 164 jusqu'à 176, donc ça c'est 36. Ça c'est le code pénal militaire congolais. Ensuite, le statut de Rome, donc ce sont les deux textes qui prévoient, parce que le statut de Rome a été déjà ratifié dans ce pays, il est également un document supplétif par rapport à la législation pénale de la République démocratique du Congo. Alors, nous allons commencer par expliquer comment on arrive au massacre collectif. D'abord, il y a d'abord ce que le code pénal ordinaire appelle l'assassinat ou le meurtre. D'abord, c'est l'article 44 qui prévoit, 42 à 46, 7, qui prévoit que la personne d'autrui est protégée. Et tout celui qui va attenter à la vie d'autrui, cette infraction-là ou bien c'est fait d'attenter à la vie d'autrui s'appelle meurtre. Et lorsque ce meurtre-là a été prémédité, ce meurtre dévié, n'est-ce pas, un assassinat. Et tous les deux sont punis de la peine capitale, donc de la peine de mort. Alors, préméditation. Lorsque donc on doit tuer quelqu'un après avoir prémédité deux ou trois jours avant, en concoctant l'idée de tuer la personne, de mûrir cette idée, de le peaufiner, de prendre toutes les stratégies pour l'attendre sur la route ou envoyer des assaillants pour aller, n'est-ce pas, attenter à sa vie.
Oui.
Tous ces actes préparatoires de la méditation constituent donc les éléments préparatoires de l'assassinat. Maintenant, lorsque ça concerne plusieurs personnes à éliminer, le législateur a considéré que lorsque l'auteur de l'infraction conçoit à éliminer plusieurs personnes, c'est que sous-jacentement à sa volonté de tuer, il y a quelque chose qui le pousse à éliminer ces personnes-là. Ça peut être en raison du fait que ces personnes-là appartiennent à une religion, appartiennent à une race, appartiennent à un groupe ethnique, appartiennent à une collectivité.
Mmh.
Et que donc, les personnes qui conçoivent, qui préméditent à éliminer plusieurs personnes à la voie, ont derrière elles une idée de l'élimination physique. Ça veut dire de supprimer sur l'ensemble du territoire ou de la collectivité concernée l'existence de ces personnes-là. Et c'est ce que le code pénal militaire congolais, en ses articles 164 et suivants, appelle les génocides. Et donc, ces génocides-là qui est également prévu par les statuts de Rome, c'est-à-dire le fait de tuer plusieurs personnes,
oui,
après avoir conçu la chose, n'est pas un simple massacre collectif, c'est prévu par notre code pénal comme étant un génocide. Ça veut dire le fait d'éliminer des personnes en raison du fait qu'ils appartiennent à une tribu, à un groupe ethnique, ou à une race, ou à une confession religieuse et consort.
Alors, à ce moment-là, Maître Ruffin, quelle différence on fait entre génocide et massacre collectif?
Là, à ce moment-là, il n'y a plus de différence. Donc, le massacre collectif, c'est dévier le résultat du génocide. Dévier le résultat du génocide, ou en même temps, l'objectif principal qui vise les personnes qui veulent. Donc, le massacre collectif devient donc le résultat ou l'objectif visé d'éliminer ces personnes-là pour, n'est-ce pas, les faire disparaître, et éventuellement, par exemple, pour les besoins d'y mettre d'autres personnes, ou tout simplement pour les besoins de terroriser les autres groupes ethniques voisins, n'est-ce pas, à ne plus oser à s'apprendre ou, n'est-ce pas, à résister contre les assauts des auteurs de ces massacres. Alors, ces infractions-là sont punies par la peine capitale, selon notre code pénal.
Alors, ce qui s'est passé dernièrement à Béni, est-ce qu'on peut dire qu'il s'agit d'un génocide? On s'attaque à la population, aux enfants, aux vieillards, aux femmes enceintes, et puis décapitées à l'aide de machettes. Comment qualifier cela?
Alors, mais ça, c'est principalement le problème, c'est que c'est la justice qui doit qualifier. C'est la justice qui doit qualifier. Mais nous, en tant que chercheurs, ce qui se passe là, il y a non seulement... ce sont des crimes internationaux qui sont en train de se passer à Béni. Il y a non seulement le massacre collectif, mais il y a aussi, parce que ça concerne des civils, ce ne sont pas des personnes militaires, donc ce ne sont pas des cibles militaires. Ce sont des civils qui sont continuellement, n'est-ce pas, ainsi massacrés. C'est à la fois un crime contre l'humanité, parce que ces attaques-là qui sont dirigées contre des civils par des hommes en uniforme renvoient également, n'est-ce pas, au crime contre l'humanité. Et ça, donc, ce sont des infractions qu'on appelle...
Oui, maître Ruffin, voilà, il y a un petit problème au niveau de la liaison téléphonique. On va tenter de le rejoindre dans quelques instants. Nous parlons avec lui de massacre collectif, que dit la loi à ces sujets. Nous avons en ligne maître Ruffin Louko, juriste, chercheur et écrivain en droit. Vous avez des questions et préoccupations par rapport à ces thèmes, n'hésitez pas. Appelez-nous au 081-890-63-94, écrivez-nous également à service@radiocapi.net.
Capi Soir vous propose du lundi au vendredi à partir de 16h, heure de Kinshasa, la chronique développement durable et environnement, les offres d'emploi. Retrouvez à partir de 17h sur la radio de la paix, les journaux en français, Swahili, Chiluba, Kikongo et Lingala. Synthèse de l'actualité africaine et internationale, économie, paroles d'enfants, rencontres avec les Congolais de l'étranger et les infos sport toutes les demi-heures. De 16h à 19h, bienvenue dans Okapi Soir.
Massacre collectif, que dit la loi à ce sujet? Maître Ruffin Louko est juriste et chercheur écrivain en droit. Il intervient depuis le studio de Radio Capi à Goma. Maître, vous êtes de nouveau en ligne. Donc, vous étiez en train de dire que s'il revient à la justice de qualifier ces genres d'actes.
Tout à fait. Il revient à la justice. Et il revient à la justice parce que il y a déjà mort d'hommes et plusieurs morts d'hommes. Alors, la justice. En principe, l'auditorat général devrait mettre, le directeur général et le parquet général de la République devraient construire ou ériger quelque chose qu'on appelle chambre, j'utilise des termes techniques, chambre foraine à Béni. Ils auraient dû élire domicile à Béni pour dire à la nation qu'est-ce qui se passe là. Et ça fait maintenant une année déjà. Qu'est-ce à dire? La justice devait dire à la nation, à l'opinion, tant nationale qu'internationale, que non, voici ce qui se passe ici, voici les auteurs. Et voici comment nous allons les sanctionner, parce que tout simplement, ce qui arrive là, eh bien, ça n'a pas de nom aujourd'hui par rapport à la gravité de la cruauté et à l'horreur de ce que les auteurs sont en train de commettre ici, la population nationale à l'est du pays.
Voilà, nous avons en ligne Kiobamba, il nous appelle depuis Lubumbashi. Kiobamba, bonjour.
Bonjour Radio Capi, bonjour à tous les auditeurs qui nous écoutent à ce moment.
Quelle est votre préoccupation?
Oui, ma préoccupation essentielle, monsieur, c'est celui de savoir, dans un état de droit, il faut comprendre les soucis de la population. Moi, ce qui est, que ce soit à Béni, à Rutshuru, n'importe où, même ici à Lubumbashi, je vois que la situation est grave. J'appelle, je tire l'occasion que j'approfite, c'est le moment opportun, pour que la communauté internationale et la RDC en particulier, que chacun puisse prendre ses préoccupations et les discussions pour que nous puissions évoluer dans notre droit. Parce que je pense que ce n'est pas encore un état de droit pour ce moment.
Voilà, merci pour cette préoccupation, oui, voilà. Et maître Ruffin, qu'est-ce que vous pouvez lui dire?
Bon, non, t'as dit, c'est bon. J'ai entendu la mise au point de l'auditeur de Lubumbashi, qui est Obamba. Bon, évidemment, l'état de droit signifie toutes les personnes, toutes les institutions sont soumises, n'est-ce pas, à l'autorité de la loi. C'est pas l'état de droit. À l'autorité rien que de la loi. Alors la loi congolaise, nos lois disent que lorsqu'on a tué quelqu'un, la justice doit agir. Lorsqu'on a tué quelqu'un, la justice doit agir, ne fût-ce que par des enquêtes. Bon, il semble que nous ne voyons rien venir. Par rapport à tous ces meurtres, assassinats, meurtres collectifs que nous avons appelés ici génocide, nous ne voyons ni la justice nationale venir, nous, ni la justice internationale.
Alors, Maître Ruffin, par exemple pour le cas de Béni, les assaillants, on dit que ce sont les ADEF qui auraient attaqué les paisibles citoyens. Alors à ce moment-là, c'est la justice nationale ou la justice internationale doit prendre en charge ces cas?
L'aider est d'abord la justice nationale. Bon, les ADF Nalou, ça, cette histoire-là d'ADF Nalou, bon, il faut, on doit encore revenir là-dessus, hein, on doit revenir. Les ADF Nalou, ça, on raconte que ça fait 30 ans qu'ils sont chez nous, et c'est ce qu'on raconte, c'était un mouvement politico-militaire qui revendiquerait des droits politiques chez eux en Ouganda, et ça fait plus de 20 ans, ils n'ont plus jeté la moindre pierre chez eux. Ça fait plus de 20 ans, ils n'ont réclamé aucune participation aux élections qui se déroulent continuellement chez eux. Ils n'ont présenté aucune liste électorale, aucun candidat présidentiel. Et chez nous, ils continuent à tuer les gens. On se demande qu'est-ce que signifie ADF. Aucune revendication chez eux. Donc, cette histoire d'ADF, qu'on arrête de raconter ADF, c'est quoi cette histoire des mouvements politico-militaires ougandais, n'est-ce pas, qui ne réclament rien chez eux. Et ils pillent chez nous. Et ils continuent à tuer chez nous et nous ne pouvons pas les écraser comme un mouvement terroriste. Il faut qu'on arrête avec cette histoire-là. Donc bref, ce qu'ils doivent en dire, c'est notre justice d'abord et la justice internationale par rapport au fait qu'il y a des infractions qu'on appelle crimes internationaux qui se commettent là-bas. Donc la justice, et nous réclamons que la justice internationale puisse envoyer des enquêteurs à Beni, à Rutshuru, à Walikale par rapport à tout ce qui se passe à l'est du pays, à Goma et consorts. Pour que tous ceux qui sont présumés auteurs des crimes internationaux puissent être inquiétés par une justice, soit-elle nationale ou internationale. Et principalement, notre justice devait agir pour qu'on nous identifie qui sont ceux qui massacrent la population à l'est du pays.
Nous avons en ligne Malonga de Bandounouville. Bonjour.
Bonjour.
Qu'est-ce que vous avez à nous dire? Qu'est-ce que vous avez à nous dire, Malonga? Vous êtes à Bandounouville.
Ok, merci beaucoup. En tout cas, le sujet, c'est très bien. Moi, je veux vous dire d'abord que j'étais à Goma, j'étais à Bukavu, j'étais même à Kindu. Je me suis raconté avec un Rwandais qui était réfugié. De mes propres oreilles, il m'avait dit que tout ce que nous avions subi chez nous, vous aussi, vous les subirez. Alors, cette parole, en tout cas, m'avait choqué. On avait fait beaucoup de disputes là-bas et on s'était séparés en quelque façon. Alors, lorsque je commence à vivre ce qui se passe là, à l'Est, alors la parole de ce monsieur-là était correcte. Alors, je vais demander ceci. Puisque notre thématique est dit, qu'est dit la loi concernant le massacre? Massacre, d'abord, c'est une infraction. C'est tuerie. Celui qui tue, même la loi ne dit pas, même la loi dit, il est condamnable. Moi, je peux dire que c'est la loi internationale qui doit vraiment s'immiscer dans cette affaire du Congo. Parce qu'actuellement, il y a une loi qui dit que la non-assistance des personnes en danger, c'est une infraction. Alors nous sommes déjà dans un pays qui est en danger. Comment se fait-il que d'autres pays se laissent comme ça, les RRA? Ce n'est pas les rebelles congolais. Ce sont les rebelles de notre pays. Comment se fait-il que la communauté internationale s'éteint comme ça, la population meurt? Oh, cette population, peut-être parmi cette population, il y aurait quelqu'un qui pouvait diriger ce monde. Mais c'était comme ça, sans rien faire. Aussi, il voit que le gouvernement congolais n'a pas la force. Mais la communauté internationale peut s'imposer au degré de force. Hein? Même en Uganda, même chez nous, même dans les pays voisins là-bas.
D'accord. Alors, quelle est la question que vous adressez à Maître Ruffin Louko?
Bon, la question, j'ai dit ceci. Pas la loi traîne. Puisque, qu'est-ce que dit la loi? La loi doit avoir seulement des sanctions pour ça. Ce retard pour agir, pour condamner les coupables. Pourquoi c'est là? Qu'est-ce vraiment? C'est ça la question.
D'accord. Maître Ruffin, vous avez la parole.
Merci, joli. Alors, j'ai entendu. Bon, ces lois-là, j'ai parlé du Code pénal militaire et du statut des Roms de la CPI, la Cour pénale internationale. Alors, le statut de l'homme prévoit que lorsque la justice nationale n'agit pas, la justice internationale peut agir. Alors, elle également n'agit pas. On a beau crier ici, il y a eu beaucoup d'appels à Beni, à Goma, à Kinshasa, pour que la justice internationale, elle agisse. La procureure a fermé ses oreilles. Donc, la justice internationale, qui est supplétive à la justice
nationale? Maître Ruffin, comment voulez-vous que la justice internationale agisse au moment où il n'y a pas eu, bon, je ne sais pas, j'imagine, il n'y a pas eu de plainte?
Non, la justice internationale n'agit pas nécessairement pas sur base de plainte. Donc, retenez ça définitivement. Le procureur général près la Cour pénale internationale, donc actuellement, hier c'était Moreno, actuellement Madame Bensouda, n'agit pas sur base de plainte. Et même chez nous au Congo, le procureur général de la République, l'auditeur général militaire, n'agit pas sur base de plainte nécessairement. Agit uniquement ou principalement lorsqu'il apprend, il a connaissance qu'il y a eu une infraction quelque part. Il y a eu, par exemple, pour le procureur de la CPI, c'est lui qui est au courant qu'il y a des faits portant crimes internationaux quelque part. Mmh. Pour l'auditeur général militaire ou l'auditeur de garnison, dès qu'il apprend qu'il y a des infractions militaires qui se commettent sur une population ou sur un territoire et de sa compétence, il ne doit pas attendre une plainte. Il ne doit pas attendre une plainte. Donc, ce qui fait que ces deux justices nationales et internationales n'ont pas besoin de plainte nécessairement pour agir. Ils ont un pouvoir qu'on appelle la plénitude du pouvoir de l'action publique pour agir avec ou sans plainte. Alors, que la population de Beni ait crié pendant une année, deux à trois ans, ça, ce n'est pas une plainte. Que la population, la société civile, ait crié depuis tout ça en alertant qu'il y a quelque chose. C'est tous les médias de la communauté internationale. C'est tous les médias de la communauté internationale. Vous remarquez que depuis tout ça, ça fait maintenant environ deux mois, trois mois, toutes les chaînes internationales ont à la une la RDC. Si ce n'est pas Lubumbashi, c'est le Kivu. Si ce n'est pas le Kivu, en tout cas, c'est Lubumbashi ou Kinshasa. Donc nous sommes à la une de tous les médias. Est-ce que les différents procureurs généraux, auditeurs, ne suivent pas le média? Est-ce que le procureur de la CPI ne suit-il pas le média? Qu'est-ce qui se passe pour que tout le monde ferme les yeux sur un génocide qui est en train de se commettre à Beni?
Oui, je vous écoute.
J'ai terminé la phrase. Alors qu'il s'est commis au Rwanda et dans d'autres pays, et la communauté internationale a dit plus jamais ça. Plus jamais ça. Maintenant, c'est en train de se commettre dans un pays voisin à côté de là où le génocide s'est commis en 1994. Et tout le monde décide de fermer les yeux. Qu'est-ce qui se passe? Donc, lorsque nous parlons, c'est pour alerter tout le monde qu'il y a quelque chose qui se passe. Mmh. Il faut que la justice nationale ouvre les yeux. Je parle d'une chambre foraine qui doit être établie, qui doit être construite, n'est-ce pas, à Beni par notre auditorat général ou par notre parquet général de la République, pour que l'on dise à la nation et à la communauté internationale qu'est-ce qui se passe.
D'accord.
Et à défaut de nous, disons, comme être les pieds, que la communauté internationale, par madame la procureure, près la CPI, puisse envoyer des enquêteurs à Beni et dans tous les territoires voisins pour savoir qu'est-ce qui se commet et qui sont les auteurs. Nous avons appris, nous, que c'est la peur des gendarmes qui est le consommateur de la chaleur. Et lorsqu'on a peur que les gendarmes vont passer, vont vous arrêter, lorsqu'on a peur de la justice, alors les gens vont être prudents. Tant que la justice n'agit pas, c'est une complicité pour dire qu'on continue à faire ce que vous êtes en train de faire là-bas. Ça ne nous aimait pas, nous nous en foutons et perdons. Il faut donc qu'on fasse peur à ceux qui commettent cela par inaction judiciaire.
Nassor Moussa nous appelle de Kindou, bonjour.
Oui, bonjour à tous les auditeurs de la radio Capu qui sont branchés à ce moment.
Quelle est votre question?
Oui, avant d'abord de poser ma question, je dis d'abord mes condoléances aux familles victimes de ce massacre. Je viens de suivre bien l'invité. Il dit que les plaintes sont négligées par les autorités. C'est normal. Et les autorités suivent les médias, mais ils négligent ça. C'est vraiment un grand problème. Bon, ce que je veux demander à l'invité, par rapport à ce massacre-là, ce n'est pas bon que le peuple, donc de ce coin, fait la marche ou la pétition contre les difficultés qu'il rencontre. Parce que ce sont les deux voies-là qui sont légales. Est-ce que c'est normal de faire ça, hein, la marche ou la pétition contre ce massacre-là? C'est ça vraiment ma préoccupation par rapport à la thématique.
Bien, merci. Merci. Augustin nous a écrit depuis Kananga. Il dit comment porter plainte si on ne connaît pas les assaillants? Les assaillants ne sont pas clairement identifiés. Maître Ruffin Aluko.
Alors, on commence par Augustin de Kananga. Comment porter plainte lorsque l'auteur n'est pas connu, identifié? La loi vous donne ce qu'on appelle la plainte. D'ailleurs, la plupart des cas, lorsque vous êtes victime d'une infraction, vous ne connaissez pas l'auteur, la plupart des fois. Par exemple, un voleur est venu cambrioler chez vous, il est parti avec les histoires, il ne vous a laissé aucune identité ou que sa carte d'électeur pour savoir que c'est elle. Alors, la loi vous donne ce qu'on appelle la plainte contre inconnu. La plainte contre inconnu, donc c'est la justice qui doit faire des enquêtes pour vous identifier qui est celui qui est passé chez toi pour faire ça. Donc, vous avez tous, où que vous soyez, lorsque vous êtes victime d'une infraction, de saisir la justice par ce qu'on appelle plainte contre inconnu. Et la justice va enquêter, va interroger tous ceux qui sont là-bas, va aller sur les lieux pour vérifier s'il y a quelques effets qui ont été laissés sur le lieu, les empreintes et consorts pour les examiner et identifier ou remonter la filière jusqu'à rattraper la personne qui est celle présumée d'être l'auteur de ce qui s'est passé. Donc, même si vous ne connaissez pas l'auteur, vous avez la possibilité de déposer une plainte contre inconnu. Alors ça, c'est là la question, la réponse à Augustin de Kananga.
Alors Nassor de Kindu, il y a également Gustave qui va dans le même sens que Nassor. Il dit, Gustave est à Kananga aussi, il veut savoir le fait de marcher, d'organiser une marche par la population de la province victime est une façon de porter plainte auprès du gouvernement. Maître Ruffin. Maître Ruffin, vous êtes toujours en ligne? Voilà, il y a un petit souci. Au niveau de la liaison téléphonique, nous allons le rappeler. Il est à Goma, au Nord Kivu. Et avec lui, nous sommes en train de parler du massacre collectif, hein, qu'est dit la loi congolaise à ces sujets. Vous savez que la région des Beni, au Nord Kivu, est le théâtre d'attaques d'une rare violence. Des assaillants surgissent dans les villages et tuent les habitants à la machette, enfants, femmes enceintes, vieillards, personne n'est épargné. Et les corps sont démantelés comme des pièces débouchées. Et les images qui en témoignent sont épouvantables. Alors, qu'est dit la loi? La justice congolaise à propos des massacres collectifs de ces gens. Voilà, c'est le thème que nous sommes en train d'aborder aujourd'hui avec Maître Ruffin Aluko, juriste et chercheur, écrivain en droit. Vous avez des questions et préoccupations, n'hésitez pas. Appelez-nous au 081-890-6394. Écrivez-nous également à service@radiocapi.net.
Grâce à Internet, la radio d'aujourd'hui s'écoute aussi quand vous êtes disponible et pas seulement en direct. Radiocapi.net, téléchargez et conservez vos émissions préférées. Dialogue entre Congolais, parole aux auditeurs et au Capi Service. Téléchargez l'émission de votre choix, vous l'écoutez quand vous le souhaitez. Radiocapi.net, la radio en différé à votre service.
Voilà, Maître Ruffin, je disais tout à l'heure que Gustave a abondé dans le même sens que Nassor en disant, est-ce que le fait d'organiser une marche par la population, la société civile, est une façon de porter plainte?
Bon, la marche citoyenne, c'est une expression démocratique de dire oui ou non par rapport à quelque chose. Assez ou nous sommes satisfaits par rapport à quelque chose. Donc c'est une action citoyenne, ça peut également exprimer, n'est-ce pas, un mécontentement généralisé par rapport, n'est-ce pas, à telle ou telle autre action ou comportement. Donc, la population a droit, n'est-ce pas, de s'exprimer, parce que la population est appelée en politique ou en science politique les souverains primaires. Donc, c'est lui le dépositaire du pouvoir, en même temps, c'est lui le consommateur. Tous ceux qui ont le pouvoir, où qu'ils soient, n'est-ce pas, agissent au nom de la population. Mais alors, ce qui étonne, ce qui choque depuis tout ça, je me rappelle lorsque nous étions au ministère de la Justice, à l'époque, lorsque j'étais conseiller juridique porte-parole, le ministre avait déjà proposé ce qu'on appelle le mandat, hein, il avait déjà proposé ce qu'on appelle le mandat des procureurs généraux, ça veut dire pour que nous sommes fatigués de voir des procureurs généraux terminer le mandat sans avoir arrêté personne de leur compétence. On est fatigué. C'est parmi les motifs de l'absence de justice dans notre pays. Les procureurs généraux qui font 5 ans, 10 ans, sans avoir arrêté la moindre personne de sa compétence. Le mandat, ça veut dire, vous avez 3 ans, vous avez arrêté déjà combien de personnes qui ont violé nos lois, qui ont détourné, qui ont été corrompues de ta compétence. Et nous nous retrouvons là. La justice n'agit pas. Nous avions même fait des statistiques, n'est-ce pas,
à l'époque, et on a constaté, ça continue jusqu'à aujourd'hui, que la justice pénale ne fonctionne plus parce qu'elle est saisie par les procureurs, mais elle fonctionne parce qu'elle est saisie par des citations directes. Donc c'est 80% des citations directes, c'est-à-dire la saisine de la justice par la population via leurs avocats. Les parquets généraux, les parquets de la République qui sont chargés de l'action publique, qui sont chargés de saisir nos juges, les saisissent à moins de 20%. Les 80%, ce sont les citations directes qu'on appelle les FD. Et donc, conséquence, nos parquets n'agissent plus, ne rendent plus compte à la population par rapport au travail qui leur est confié par la loi d'actionner l'action publique. Lorsqu'il y a violation de la loi, arrêtez les responsables. Ou rechercher d'abord les responsables, arrêtez-les et traduisez-la devant la justice. Et ces problèmes-là demeurent jusqu'à aujourd'hui. Le fait qu'il n'y a pas de mandat pour les procureurs généraux, ils terminent leurs 5 ans, ils terminent de 10 ans, sans avoir arrêté personne leurs compétences. Et là, on parle d'impunité, on parlera d'impunité, et nous serons réduits d'impunité parce qu'on arrête personne leurs compétences. Et souvent, c'est politiquement qu'on agisse, mais dans l'indépendance de la justice pour agir et arrêter tout le monde. Nous avons beau crier, nous ne voyons rien venir, et ça, il faut qu'une réforme soit faite là-dessus pour que nos procureurs généraux, qui ont la plénitude de l'action publique, d'arrêter déjà de rechercher les violations de la loi par qui et de les traduire devant la justice. Ça va continuer si nous n'avons pas réformé notre justice.
Charles nous appelle de Lubumbashi, nous parlons des massacres collectifs que dit la loi congolaise à ce sujet. Charles, bonjour.
Bonjour Jody, bonjour Alain, c'est Charles et Salangueta.
Quelle est votre préoccupation, Charles?
Oui, j'ai deux petites préoccupations. Première est la suite. J'aimerais savoir si les massacres ont été commis par les civils, c'est-à-dire un groupe de bandits qui ne sont pas des militaires. Est-ce qu'il y a une autre qualification juridique appropriée, ou soit que ça reste toujours massacre collectif? Et la deuxième, par rapport à l'audition de Moïse, l'on a vu les policiers en train de disperser les gens avec des gaz lacrymogènes. Est-ce que ces derniers, on peut appeler ça massacre collectif? Eh bien, je vous remercie. Bonne journée.
Bien, Maître Ruffin, le cours.
Bon, nous ne sommes pas sur les gars de Lubumbashi. Il n'y a pas massacre collectif parce qu'il n'y a pas eu mort d'homme. Et revenant à notre sujet, nous l'avons dit, le massacre collectif, lorsqu'il a été prémédité par un groupe d'individus qui peuvent être des civils ou des militaires ou des bandes armées, eh bien, ça s'appelle par le code pénal et militaire génocide. Si vous avez concocté de tuer ces personnes-là à raison de leur appartenance à un groupe ethnique, à une race, à une confession religieuse ou à ceci, cela ou à une culte quelconque, si vous avez décidé d'éliminer ces personnes-là à raison du fait qu'ils appartiennent à un groupe ethnique, à une race, à une confession religieuse, ou ceci, cela, eh bien, ça s'appelle génocide, qui peut être commis par toute personne. Les génocides, vous avez vu, dans les pays voisins, il y a eu des bourgmestres qui ont été condamnés pour avoir commis les génocides, il y a eu des journalistes, il y a eu de toute façon, il y a eu des militaires, il y a eu des commandants, il y a eu des colonels, donc ça veut dire que ça peut être commis par toutes personnes. N'oubliez pas que nous avons parlé également des crimes contre l'humanité, tout ça, ce sont des infractions justiciables de la justice internationale, de la Cour pénale internationale. Donc, brièvement, en ce qui concerne la question de Gusté, de Kananga et de Charles de Lubumbashi, c'est pour dire tout simplement que non, dans tous les cas d'espèce, notre justice doit absolument donner des signaux forts. Et notre justice, en ce qui concerne les violences sexuelles, elle a intimidé beaucoup d'auteurs et les violences sexuelles ont reculé. Les violences sexuelles au pays ont reculé, notamment par l'action de la justice militaire congolaise. Alors, cette justice, pourquoi n'agit-elle pas en ce qui concerne les massacres collectifs qui se sont commis à Rutshuru, qui se sont commis à Bunagana et qui se commettent aujourd'hui à Beni
Eringeti,
à Benimbao, qui se commettent à Mavivi, qui se commettent à Beni Territoire, qui se commettent à Miowe, qui se commettent à Kirumba, qui se commettent. Pourquoi la justice militaire, qui est la première compétente, ensuite la justice internationale, pourquoi n'agit-elle pas? Ça, c'est également un cri, n'est-ce pas, citoyen, pour que notre justice puisse s'assumer et montrer, n'est-ce pas, à la population que la population peut compter sur nos auditeurs qui sont à Beni, qui sont nos auditeurs de garnison, nos auditeurs supérieurs qui sont au Rota, à Beni, à Goma, n'est-ce pas, et partout là-bas, parce que notre justice est plus ou moins déjà déployée là-bas. Et nous avons besoin de procès, parce que c'est cette justice-là qui est l'affaire de lance de la lutte contre les violences sexuelles, qu'elle, n'est-ce pas, qu'elle est médaille Koyaté, que cette justice puisse encore prouver qu'en ce qui concerne aussi les massacres collectifs, elle peut faire la même chose et rassurer notre population que nous. elle peut compter sur sa justice militaire notamment, ou la justice internationale, si elle peut ouvrir aujourd'hui les oreilles pour venir à la rescousse de la population du Bénin.
Alors, en cas de massacre collectif, quelle est la sanction ou les sanctions prévues par le Code pénal militaire congolais et le statut de Rome?
Le statut de Rome, lui prévoit la perpétuité pour les crimes internationaux. Et l'article 164 et 165 du Code pénal militaire prévoient la peine de mort, la peine capitale pour tous les auteurs. Donc, chez nous, comme la justice nationale continue à appliquer la peine capitale, eh bien, c'est elle qui est prévue pour toutes ces personnes impliquées, de près ou de loin, qu'elles soient étrangères ou nationales, ces personnes-là, n'est-ce pas, sont, si leur culpabilité est établie, la cible de la peine capitale. Et nous regrettons d'ailleurs le fait que la Tanzanie avait arrêté Jamil Mikulu, qui est l'un de ceux qui sont présumés avoir organisé ces massacres, et que nous avons perdu la guerre là-dessus. Ça veut dire qu'il a été envoyé à Kampala au lieu qu'il soit, n'est-ce pas, extradé dans notre pays où notre justice militaire l'avait déjà condamné à la peine capitale en ce qui concerne le procès Mamadou à Beni. Et donc nous avions droit d'avoir cette personne-là pour qu'il vienne répondre de tout ce qui est en train de se commettre aujourd'hui. Et je crois que notre justice peut encore réclamer son extradition, parce que si on doit dire que sur les ADFNAL et lui était l'autorité morale ou la numéro 1, on peut encore réclamer effectivement que cette personne-là soit extradée dans notre pays pour venir répondre, n'est-ce pas, de tous ces massacres qui sont en train de se commettre et qui continuent à se commettre en France.
Voilà, on va terminer avec la question de Clotaire Kandondo depuis Beni. Il dit ceci, ma question est de savoir comment porter plainte, il revient sur ça, comment porter plainte contre un ennemi non identifié, car le gouvernement parle toujours des présumés ADF.
Bon, le gouvernement n'est pas la justice, le gouvernement n'a même pas la qualité de qualifier, c'est lui qui qualifie selon la loi. Le gouvernement peut juste donner des indications, c'est lui qui qualifie selon la loi, la constitution, c'est la justice. Et donc, qui, elle, n'a pas besoin de plainte? La justice, lorsqu'on a violé les lois de la République, n'a pas besoin nécessairement de plainte. Elle agit aussitôt que la connaissance, elle est au courant, comme vous et nous, qu'il y a quelque chose qui s'est passé en violation de la loi, la justice doit agir. Et donc, la justice est même l'organe principal du gouvernement pour agir. Bon, pas nécessairement du gouvernement, de la République pour agir. Parce qu'il y a, dans une République, il y a l'exécutif, qui est le gouvernement, il y a le Parlement, qui fait des lois, et il y a la justice, qui son travail, c'est réprimer ceux qui ont violé nos lois. D'abord les rechercher, et puis les amener devant un tel, pour que ces personnes-là soient condamnées conformément à la loi, parce qu'ils ont violé la loi. Tant que la justice n'agira, il y aura beaucoup d'arbitraires dans notre pays. Nous insistons là-dessus parce que nous considérons que, comme le dit un sage, que c'est la justice qui élève une nation. On en a besoin partout. Il faut donc que la justice agisse. Lorsqu'on renforce les capacités des institutions, celle-ci, celle-là, revenons à renforcer la capacité de l'institution qu'on appelle justice. C'est les salis de la République. La justice élève une nation. Nous tous, si on en a besoin, où que vous soyez, si la justice n'agit pas, elle détruit la nation. Il faut que la justice agisse, parce que c'est son travail de donner l'espoir à la nation et d'élever notre pays.
Bien, merci.
Les pays voisins, voilà, qui nous entourent, ont, n'est-ce pas, notamment commis par la force et la justice. Si la justice agit, les pays se relèvent et il faut que, dans ces cas, notamment notre justice puisse agir.
Maître Ruffin Lukoho, merci. Je rappelle que vous êtes juriste et chercheur et écrivain en droit. Vous intervenez depuis Goma, au Nord Kivu, depuis le studio de Radio Kapi à Goma. Merci et bonne journée.